et de faire son action. Seigneur, on t'accueille, Père, Fils, Saint-Esprit, on t'accueille au milieu de nous. Merci pour la puissance de ta parole. La puissance de ta parole. Seigneur, on a foi que cette parole, encore ce matin, elle va faire une œuvre en nous. À la fois de destruction, de ce qui n'est pas selon toi, et de construction selon toi, Seigneur. Alors, merci pour l'épée de ta parole dans nos vies. Amen. Alors, vous avez vu qu'il y a un élément visuel. Eh, il est où mon élément visuel? Ah oui, il est là. Voilà, un élément visuel, tout à fait adapté au message. J'ai pas besoin de sortir des petites choses de mon sac cette fois-ci. C'est adapté au message. C'est... ça représente quoi alors? Dites-moi. Alors, oui, il y a la France. Et puis, l'espérance, oui. Quoi d'autre? Parce qu'on peut avoir plusieurs interprétations, hein. La danseuse, ça peut être qui? Ah, c'est l'église, c'est l'épouse, oui. Est-ce que c'est une épouse sans tache ni ride? Voilà, très bien, Suzanne, c'est une épouse restaurée. Quand Bénédicte qui a fait cette magnifique œuvre, et quand elle l'a amenée la première fois, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une jeune fille toute pure, qui n'a rien connu de la vie, rien. Eh ben non, pas du tout, c'est une épouse qui a connu justement beaucoup de choses dans la vie. Suzanne, c'est l'épouse d'Ézéchiel 16, hein. Elle a connu plein d'amants, plein de choses pas possibles. Et puis, elle a reçu ce magnifique vêtement blanc, le vêtement de la justice. Donc, c'est une épouse purifiée, justifiée par le sang de Jésus. Et puis, cette épouse, elle n'est pas... Vous remarquez qu'elle n'est pas dans une église. Elle n'est pas cloîtrée dans une église. Non, 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 non. Elle est dehors, et même plus que dehors, elle envahit toute la nation. Vous reconnaissez, hein? Elle est dehors, elle a... Alors pourquoi elle danse sur la nation? Eh bien parce qu'elle a un cœur pour la nation. Elle a un cœur et elle sait que sa danse a un effet puissant sur la nation. Alors c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous mettre en appétit le thème d'aujourd'hui. Alors moi j'habite un château, voilà. Et dans ce château il se passe des choses. Alors il y a deux événements, deux anecdotes. Alors, une première anecdote, c'est que on a des oiseaux qui viennent nous visiter au château. C'est pas les élèves, hein, les oiseaux. Il y a parfois des drôles d'oiseaux chez les élèves, mais ça, c'est autre chose. Bon, donc il y a des oiseaux. Et on a des passereaux, on a beaucoup de pigeons aussi qui font des... Hein, bon, bref, des pigeons. Mais alors, cette année, depuis quelques jours, il y a un oiseau qu'on n'avait pas vu avant. C'est une tourterelle. Elle est juste sous ma fenêtre, une tourterelle. Alors, bien sûr, tourterelle, vous êtes des bons chrétiens qui connaissez votre Bible. Tourterelle égale, ça évoque quoi pour vous? Tourterelle, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, c'est Cantique 2, la voix de la tourterelle. Donc ça, et puis après, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Peut-être que je sorte les notes là, parce que... Donc lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Et ça, c'est la voix de Jésus qui parle et qui s'adresse à son épouse. Une épouse qui sait qu'elle est juste. Il lui dit de sortir de ses pas, de ses rochers, de ses escarpements, parce qu'elle est un peu cachée dans ses cavernes, dans son local d'église, vous savez, un peu cachée. Il lui dit, allez, lève-toi, sors, vas-y, fais entendre ta voix. La voix de la tourterelle se fait entendre, vas-y, sors. Et puis, il y a quelque chose qui va dans le même sens, c'est le psaume 45, c'est très, très romantique. Vous savez que Dieu est très, 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 très romantique, hein. On pourrait faire tout un message sur le romantisme de Dieu, le lyrisme de Dieu. C'est une facette, c'est peut-être pas trop religieux ce que je vais vous dire, mais c'est très vrai. Dieu est très romantique. Et puis, la Bible est une extraordinaire histoire d'amour. On pourrait le voir sous cet angle-là, hein. Extraordinaire histoire d'amour. Donc, il y a psaume 45, et il dit « Oublie la maison de ton père, le roi porte ses désirs sur ta beauté, la beauté qu'il nous a donnée. » On dit « Elle est où la beauté ?» Ben, il nous l'a donnée. Mais chacun de nous, on a une beauté unique, spécial, vous voyez, on reflète chacun de nous une facette unique de la gloire de Dieu. Vous voyez, vous croyez ça, hein? Chacun de nous, on n'est pas des clones, hein? Chacun de nous est absolument unique et on est appelé à refléter quelque chose de unique de Dieu. Donc, on est beau, ça vous va? On peut le dire ensemble? On est beau, de la beauté que Dieu nous a donnée. Rien à nous, hein? C'est lui qui nous a donné, et chacun de nous, une beauté unique. Vous sentez mieux là? La parole que j'avais pour ce matin, c'était « Dieu veut nous donner un puissant encouragement. » Puissant. Et puissant en grec, c'est dynamis. C'est une dynamite, là, qui renverse tous les miasmes d'abattement, d'accablement. Voilà. Donc, un puissant encouragement. Donc, on est beau. beauté unique. Et le Seigneur nous dit, oublie la maison de ton père, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi nous désire. Il y a une, je ne sais pas si vous le sentez dans l'esprit, il y a une puissance d'attraction. Il veut nous serrer contre son cœur de manière très passionnée. C'est un roi rempli d'amour. Hein. Jésus, c'est le bien-aimé. Alors vraiment, que ceux qui ne connaissent pas Jésus le bien-aimé, ils prient, ils demandent, Saint-Esprit, révèle-moi Jésus le bien-aimé, parce que c'est extraordinaire ça, quand on a cette révélation. Jésus le bien-aimé qui nous attire contre son cœur. Et il y a cette puissante attraction, il veut nous amener contre son cœur. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Rends-lui tes hommages. C'est la magnifique psaume 45. Alors, psaume 45, je ne sais pas, nous, on est dans une culture française. Voilà. Alors, moi, le psaume 45, quand on dit le roi porte ses désirs sur ta beauté, des jeunes filles viennent, j'ai du mal à imaginer quelque chose en Israël, même si j'aime beaucoup Israël, j'ai du mal. Pour moi, je vois la Touraine, les magnifiques châteaux de Touraine, Chambord, Chenonceau, le roi, vous voyez ? Il y a quelques années, justement au château, on a fait un défilé de rois, de reines, de princesses, et c'était le style Touraine, hein, Renaissance, Tourangelle, les châteaux. Ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils y aillent, hein, les étrangers, allez-y parce que c'est trop beau. Donc c'était le roi porte ses désirs sur ta beauté, imaginez ce cadre magnifique de Chambord, Chenonceau, Touraine, et oublie la maison de ton père. Ah, oublie la maison de ton père. Ça, c'est intéressant. Et il y a un écho dans Osée 2, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne se souviendra même plus de leur nom. On ne se souviendra plus de leur nom. Oublie la maison de ton père. Ça veut dire quoi, ça ? Oublie la maison de ton père. Ce verset, il résonne. Oublie la maison de ton père. Ça veut dire qu'on doit être libéré, mais au plus profond de nous-mêmes, de la mauvaise culture de nos pères. Vous voyez, le côté culturel, paracheté, charnel, la mauvaise mentalité de nos pères. Et ça va avec les idoles. Hein ? Alors là, j'étais dans le côté très très romantique de la Bible. Est-ce que, alors là, il faut peut-être abandonner notre culture française où on dit ou c'est ça, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Dans la culture hébraïque, ça peut être ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça. Hein? Donc attention, là, on va changer un peu d'un modèle culturel. Là, on peut être plusieurs choses à la fois. Donc il y a le côté très romantique, ok, et puis il y a le côté très guerrier. Gédéon, juge. La première chose quand Dieu l'a appelé, à sortir aussi de son état d'infériorité, là. Donc, il a fait de lui, tu es un vaillant héros, ok, robe de justice, ok, il sait qui il est, vaillant héros. Une des premières choses qu'il a faites, c'était quoi ? Avant de combattre les Madianites et tout, et tout, et tout. Alors, la première chose qu'il a faite, voilà, renverser les idoles, où ça ? Dans la maison de son père, même que ça n'a pas été sans problème. Donc, la première chose... Bon, il y a eu sacrifice, il y a eu d'autres choses, mais il a été appelé à détruire les idoles de la maison de son père. Et là, il nous faut confronter les idoles, les statues, là, les idoles qui sont dans notre mentalité française. Le problème, c'est que nous, Église de France, on marine tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte de ça, que c'est là. On marine dedans, vous savez. C'est que quand on va à l'étranger qu'on se dit « Ah, mais ils ne sont pas pareils que nous, les étrangers. » Et alors... Ah oui, alors deuxième chose qui s'est passée au château cette semaine, il y a eu la tourterelle, c'est très joli, et puis il y a eu un abattage d'arbres. Hein, vous voyez, ceux qui étaient au château, ils savent. Hein. Il y a eu un abattage d'arbres, un des plus hauts arbres, des arbres les plus élevés qu'on avait à côté, là, c'était juste, on était sous nos fenêtres, là, un arbre immense, un conifère, donc pas de fruits, portait pas de fruits celui-là. Et puis, il a été abattu, mais alors c'était intéressant parce que... peut-être que les gens pas connaisseurs, ils pensent que pof, on coupe à la base et pof, on met par terre. C'est pas du tout ça. Hein. On commence par enlever toute la verdure de l'arbre. Et à un moment donné, il était complètement... il n'y avait plus de branches, plus rien. Et au haut, il y avait un ridicule petit plumet qui restait. Vous vous rappelez ? C'était franchement ridicule. Hein. Il y avait tout le tronc tout nu, sans verdure, le petit plumet là-haut qui se baladait. Et après, ils l'ont coupé par petits tronçons. Et maintenant... terminé, plus d'arbres. Alors sur le coup, vous savez, oh le pauvre arbre, les oiseaux, comment ils vont faire, tout ça. Et après, renouvellement de la pensée, atatata. Elle dit quoi la Bible quand on abat un arbre ? Ah, j'ai regardé, hein, sérieusement, j'ai cherché dans la Bible, parce qu'il y a toujours un signe prophétique quelque part, surtout au château. Donc on regarde, et bien j'ai trouvé deux cas dans la Bible où un abattage d'arbre égale l'orgueil qui est abattu. Nebuchadnezzar par exemple, hein, orgueil abattu. Et comme ça tombait en même temps que les 15 jours de prière qu'on vient juste d'achever de l'Église, là, dans les 3 semaines d'Objectif France, pendant une semaine, on a quand même ciblé pas mal l'orgueil français. Alors, je trouvais que c'était très intéressant comme signe qu'au château, on abatte un énorme arbre sans fruits, là, conifère. Donc, c'est l'orgueil. Alors là, ça, c'est quelque chose chez nous, l'orgueil. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, on est avec. Et je ne sais pas si vous avez arrivé de confronter d'autres cultures, où on se dit, oh là là, mais ils sont humbles. Pas comme nous. c'est en nous. Quoi. On a une sorte d'esprit de supériorité, de domination, qui est là. Et c'est en nous. Alors déjà, vous voyez, il faut commencer par reconnaître ce qu'on est avant de pouvoir le confronter et s'en purifier. Et ça fait... Alors, dans cet orgueil, il y a de l'autosuffisance. On n'a pas besoin des autres. Hein. L'orgueil de la pensée humaine autonome, et celle-là, elle est... Hein, quoi ? Ah oui. Celle-là, elle est aussi dans l'Église. On se confie dans nos pensées très facilement avant de chercher la pensée de Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein. Parfois, on a un problème... le réflexe de chercher Dieu tout de suite, là, c'est pas toujours là. Hein. On a une pensée humaine autonome. Et cet orgueil, il est phénoménal. On est très fiers encore de nos rois les plus orgueilleux, alors qu'on devrait s'humilier et demander pardon au Seigneur pour les rois les plus orgueilleux qu'on a eus. Le roi le plus orgueilleux, c'était Louis XIV. Il a fait un mal terrible à la France, mais on continue à s'enorgueillir de notre Louis XIV, qui, pour moi, a été le point de départ de la catastrophe, quoi, au niveau de la France. Et même avant Louis XIV, on a, si vous voulez, il y a quelque chose qui, pour moi, me passionne, qui j'aimerais vraiment que ça brûle en nous, c'est quoi, Seigneur, la France ? C'est quoi ? C'est quoi l'identité divine de la France ? Je rappelle, une fois, j'avais trouvé une citation extraordinaire. Une nation n'est pas ce qu'elle pense qu'elle est dans un temps donné. Elle est ce que Dieu dit et pense d'elle dans l'éternité. Alors, je répète, hein, c'est tellement énorme ça. Une nation n'est pas ce qu'elle pense d'elle dans un temps donné. Elle est ce que Dieu dit et pense d'elle dans l'éternité. Mais alors, c'est quoi ? C'est quoi la vraie France ? C'est quoi l'identité rachetée, l'identité éternelle de la France ? C'est quoi ? Alors, il y a quelque chose de fort en France, j'en reviens après à l'orgueil, hein. Quelque chose de fort en France, finalement, c'est quand même la culture de l'honneur. Alors, vous allez dire, culture d'honneur, on ne voit pas trop. Mais, oui, mais regardons à l'histoire. C'est pour ça que l'histoire, c'est très, très, très important. C'est nos racines, l'histoire. C'est pour ça qu'attention à nos programmes qui sont en train de nous saccager l'histoire dans plus d'histoire en terminale S. Enfin, c'est attention, attention. Donc l'histoire, dans notre histoire, on a cette culture de l'honneur qui est très forte et on a qui était représentée entre autres par la chevalerie. La chevalerie, initialement, c'était très chrétien. C'était un idéal d'honorer l'autre, honorer le pauvre, l'orphelin, le faible, le secourir. C'était honorer la parole donnée. C'était la loyauté envers le suzerain. Et les chevaliers passaient une nuit entière de prière avant d'être adoubés chevaliers. Il y a quelque chose de fort dans la chevalerie, et c'est là, dans notre culture, c'est encore là, la chevalerie. Et récemment, je lisais un article sur on parlait d'un chevalier des temps modernes, et c'est il s'appelle Dominique Lapierre, pour ceux qui connaissent, celui qui a écrit La Cité de la Joie. Il est très honoré, très aimé en Inde, parce qu'il a construit il s'occupe beaucoup des orphelins en Inde, on l'appelle papa là-bas. Et c'est un chevalier des temps modernes, si vous voulez. J'aime bien ce côté français. Vous voyez, là, je vous donne quelque chose de très beau de la France. Ce chevalier des temps modernes qui va aider des pauvres, des orphelins en Inde, qui est appelé papa là-bas, qui est beaucoup aimé. Et voilà, ça, c'est le côté chevalier français qu'on aime. Pensons aussi aux infirmières bulgares qu'on est allé délivrer. Vous voyez, ce côté de sauver, délivrer, secourir ceux qui sont opprimés. Je sais aussi que c'est connu, hein, les équipes d'urgence françaises sont très très appréciées dans le monde entier. On a quelque chose, il y a un don rédempteur là, de secourir, de sauver. Et il y a un psaume pour dire que Jésus lui aussi a ce côté-là. C'est une version très belle que j'ai trouvée de psaume 45, toujours. « Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence, la vérité. » C'est une facette... disons, une facette du chevalier de Jésus. Vous connaissiez Jésus chevalier ? C'est psaume 45, donc Jésus chevalier. Donc il y a quelque chose de Dieu dans cette chevalerie, mais dès le Moyen-Âge, ça a été perverti par ce foutu orgueil. À savoir que, par exemple, au lieu d'aller secourir le pauvre, le misérable, eh ben, les chevaliers, ils se battaient entre eux en tournoi, vous voyez ? Voilà, c'était la petite glorieuse humaine, quoi, hein. Et puis, après, c'était beaucoup plus grave. Après, il y a eu cette terrible histoire des duels. dès que, vous voyez, l'honneur, au lieu de le porter à l'autre, on le voulait le, pour soi. Ça, c'est typiquement diabolique, ça. Pof, on veut récupérer l'honneur pour soi. Et si tu as porté atteinte à mon honneur, alors là, gare à toi, je te provoque en duel. Et c'était une plaie, ces duels, à tel point que sous Louis XIII, on a dû interdire les duels, parce que c'était ça, toute la jeunesse de France, la jeunesse noble de France, elle périssait dans les duels. C'était une hécatombe. Des milliers de jeunes chevaliers, de jeunes nobles sont morts comme ça, bêtement, dans les duels, à cause de cet orgueil blessé. Donc, on voit là que la culture d'honneur, qui est là, qui fait partie de notre identité, elle est devenue porteuse de mort et pas de vie. Et les duels ont continué jusqu'au pratiquement au début du XXe siècle. Et puis maintenant, on va parler de... Il y a les duels verbaux, vous voyez. Donc ça continue, quoi. Mais à la base, il y a cet idéal de chevalerie. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort en France. On aime beaucoup, vous savez, Lagardère, Thierry la Fronde, enfin tout ça, quoi. Il y a quelque chose de français là-dedans. Vous êtes d'accord, non? Il y a quelque chose de très français. Alors, rachetons-le pour notre roi. Et ça, c'est. Et renonçons surtout à l'orgueil. Alors, parallèlement à l'orgueil, on a quelque chose de terrible. Mais pareil, on ne se rend pas compte parce qu'on marine dedans. C'est la moquerie. Alors, je sais ça parce que nous, on est habitués. Pour nous, c'est presque normal parce que c'est tout le temps là. Mais j'étais étonnée. J'ai un fils en Chine, Samuel, et il me disait tu sais, là-bas, il ne se moque pas. Ah bon? Ah bon? C'est pas chinois de se moquer. C'est français, par contre, de se moquer. Et alors, la moquerie, c'est terrible. Et je voudrais un petit peu... Parce que c'est une tournure d'esprit. Et que celui qui ne s'est jamais moqué d'autrui lève la main. C'est très facile de sombrer dans la moquerie parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça nous entoure. Et c'est très vieux. Alors là, ça date des Moyen-Âge, il y en avait déjà de la moquerie. Chez les Romains aussi, pareil. Ça vient des Romains, enfin, ça vient je ne sais pas quoi, mais c'est très, très vieux, la moquerie. Roman de Renard, pour ceux qui connaissent au Moyen-Âge. Donc, la moquerie. Et alors, la moquerie, c'est aussi une facette de l'orgueil. Et là, je vous ai amené... Alors, la moquerie, c'est... Je vous dis quelque chose qui vient de Saint-François de Sales. C'est une des plus mauvaises conditions qu'un esprit peut avoir que d'être moqueur. Dieu est extrêmement ce vice. Rien n'est si contraire à l'amour que le mépris du prochain. Or, la dérision, la moquerie ne se fait jamais sans ce mépris. C'est pourquoi elle est un fort grand péché, en sorte qu'on a raison de dire que la moquerie est la plus mauvaise sorte d'offense qu'on puisse faire au prochain par les paroles. Parce que les autres offenses se font avec quelque estime de celui qui est offensé, et celle-ci se fait avec mépris. Mais quant aux jeux de paroles qui se font les uns les autres avec une modeste gaieté, ils appartiennent à la vertu nommée eutrapélie. Je vous apprends un nouveau mot. Eutrapélie, c'est les bons jeux de mots sans moquerie. On prend une honnête et aimable récréation sur les occasions que les imperfections humaines fournissent. Il faut cependant se garder de passer de cette honnête joyeuseté à la moquerie. La moquerie provoque à rire par le mépris du prochain. Mais la gaieté, l'eutrapélie, provoque à rire par une simple liberté, confiance, familière franchise, conjointe à la gentillesse de quelques mots. François de Sales, XVIIe siècle. Donc, attends, vous voyez, il y a une grande différence entre l'eutrapélie, donc les jeux de mots, l'humour, des choses sympathiques, et la moquerie qui implique un mépris du prochain. Donc, la moquerie est très, très liée à l'orgueil. Et on a une pensée française très moqueuse, avec comme summum de la moquerie, bon, c'était la raillerie, le sarcasme. Bon, c'est Voltaire, voilà. Mais c'est vraiment là, avec tous nos caricaturistes, la moquerie, elle est presque innée chez nous, ça vient tout seul, quoi. Et voilà, je crois qu'on s'est tous surpris à se moquer du prochain, c'est très vite fait, surtout si c'est culturel, vous voyez. Donc on doit vraiment arracher ça de notre cœur. Et alors dans la Bible, il y a quand même une parole qui revient deux fois dans le Nouveau Testament: Dieu résiste aux orgueilleux. Et alors, dans le texte grec, c'est très parlant parce que orgueilleux, il y a le mot hyper. Vous savez, ça commence par hyper orgueilleux. Quelqu'un qui est. C'est hypertrophié. Le moi est hypertrophié. Et alors, résister, en grec, c'est fort aussi parce que ça commence par le préfixe anti. Il se tient anti, contre. Il n'y a rien qui passe. Les orgueilleux, ils ont beau chercher Dieu, il n'y a rien qui passe de Dieu, ils ne se révèlent pas. Vous connaissez tous cette histoire du cosmonaute qui allait dans les cieux, il a dit « Ah, je n'ai pas trouvé Dieu ». Ben évidemment, s'il avait de l'orgueil, Dieu, alors là, c'est rideau, il ne se révèle pas. Et puis alors, je peux vous dire, c'est rideau, quoi, ça ne se révèle pas. Il paraît que Voltaire, dans son agonie, il a affronté ce blocage total de Dieu et c'était terrible, hein. Une agonie abominable qu'il a vécue. Et puis, vous avez un exemple dans la Bible, avec la passion de Christ. Je voudrais opposer Pilate et Hérode. Alors Pilate, c'était pas un moqueur, Pilate, mais c'était quand même un homme cruel, c'était vraiment pas quelqu'un de bien, quoi. Hein. Mais Jésus, quand même, lui a adressé la parole, une fois, et puis il a donné un songe à sa femme. Donc, il y avait quand même une relation. Je crois que Jésus cherchait le cœur de Pilate, ou voulait se manifester, il y a quelque chose. Par contre, Hérode, vous rappelez, rien, pas un mot. Et même que Hérode a été très étonné. Jésus n'a absolument rien dit à Hérode. C'était le rideau total. Hérode, c'est bien celui qui s'est moqué hein, de Jésus. Donc la moquerie, c'est vraiment quelque chose qui bloque la vie de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église, en tant qu'Église, on doit absolument être purifiée de la moquerie, purifiée de l'orgueil, parce que Dieu résiste. Et quand Dieu résiste, c'est quelque chose, hein. Et peut-être que c'est pour ça que dans notre Église de France, la France, on a si peu de choses de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Et il y a une œuvre de l'Esprit, il va certainement amener l'Église de France à un stade d'humilité qui sera nouveau, qui sera une œuvre pure de l'Esprit, une œuvre de grâce, l'humilité. Alors, l'humilité... L'humilité, ça veut dire pauvre en esprit aussi. Vous savez que Jésus a donné deux adjectifs de lui-même. Il a donné beaucoup de noms. Hein. Je suis la vie, le chemin, etc. Mais en adjectif, moi j'en ai trouvé que deux. Je suis doux et humble de cœur. Et ça si Jésus l'a dit, est-ce qu'on peut dire, alors peut-être que c'est un petit peu inusité pour vous, le Père, Dieu le Père, il est doux et humble. Et le Saint-Esprit, il est aussi doux et humble. Donc, qu'est-ce que c'est que cette l'humilité? Alors, ça va avec la pauvreté en esprit. Hein, et les pauvres en esprit, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'ils auront le royaume de Dieu. C'est dans Matthieu 5, 5. Hein, ou Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, il y a une relation entre l'humilité et l'héritage du royaume. Ça veut dire que si l'épouse de France devient humble, s'humilie, elle héritera le royaume des cieux, elle héritera la nation, elle aura un héritage. Si elle reste dans ses pensées d'orgueil, d'autosuffisance, de ses pensées humaines, elle ne va rien hériter du tout. Donc il y a une relation entre l'humilité et le royaume. Et puis, l'orgueil, donc il y aurait beaucoup à dire sur l'orgueil, hein. Mais après, on peut passer à une autre plaie de notre culture, de notre mentalité. Donc, j'ai donné l'orgueil, j'ai donné la moquerie, la raillerie. Ah oui, et autre chose, c'est la revendication des intérêts propres. Lutte des classes, ça vous dit quelque chose? Alors, à l'école, en seconde, on est en train d'étudier Germinal, lutte des classes, etc. Parce que je voulais montrer aux élèves des racines quand même d'événements, d'éléments politiques actuels. Et puis, je vais dans un kiosque à journaux et, oh surprise, je vois un gros titre sur un hebdomadaire, « La haine des riches !» avec « Nostalgie de la Révolution » en sous-titre et puis « Les nouveaux Robespierre ». Bien. Donc, voilà, on a de nouveau cette confrontation des classes, cette lutte des classes qui va avec la défense des intérêts, l'égoïsme, l'individualisme, tout ça, et la satisfaction. Donc, revendication, c'est très fort dans notre culture, la revendication. Les grèves, tout ça, à tel point que c'est amusant parce que quand on se trouve à l'étranger, la France vue par exemple d'Angleterre, c'est un pays, quand on y va, on dit aux gens, tu es sûr qu'il n'y a pas une grève en cours là avant que tu y ailles? c'est assez étonnant. Donc voilà, donc revendication, et ça c'est l'opposé de, quelle est la douceur? C'est la douceur en fait. La douceur, alors la douceur, je vous donne la définition de la douceur. On s'en remet à Dieu et non à ses propres forces pour se défendre contre l'injustice. La douceur est opposée à l'affirmation du moi et au propre intérêt. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ah, ils hériteront la terre. Vous voyez, quand on parle d'une épouse qui prend possession d'un pays, l'humilité et la douceur, c'est capital, quoi. C'est les clés pour conquérir une nation. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Donc ça veut dire que on abandonne tout cet esprit de revendication en tant que peuple de Dieu, hein. On sera des sacrificateurs efficaces si on est absolument, si on a le caractère de Christ en nous, et donc si on oublie la maison de notre Père et toute la mentalité de confrontation de la maison du Père. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison du Père? Dans la maison du Père, il y a aussi l'insatisfaction perpétuelle, le manque de reconnaissance. Et je dirais, on est aveugle. Même que les autres nations, ils nous disent, mais pourquoi ils sont si pessimistes, les Français? Il n'y a pas de raison. Franchement, et puis, manque de reconnaissance, on a le pays, enfin, je ne sais pas si on peut dire le pays le plus beau de la planète, mais on a la première destination touristique au monde, ça c'est un objectif, c'est un élément objectif. On a un pays extraordinaire, magnifique. C'est réel, c'est la première destination touristique de la planète, quand même, ça, il faut le dire. Est-ce qu'on peut être fier sans être orgueilleux? Si, c'est possible. Alors, et vous connaissez tous la blague? Enfin non, sinon je vous la dis pour ceux qui ne savent pas. On a un pays, la France est un pays fabuleux, formidable, disent les étrangers. Le problème, c'est qu'il y a les Français dedans. Est-ce qu'on pourrait rêver d'une France qui soit en harmonie avec ses Français? Est-ce qu'on peut rêver ça, nous, Église? On va essayer de rêver de, vous voyez, la terre et le peuple qui sont harmonieux, ensemble. On a une terre, mais le lait et le miel coulent de notre terre. J'avais une pensée, bon, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu compliqué, mais je voulais amener, mon mari collectionne les pots de confiture de toutes les régions de France. Je voulais vous amener toutes les richesses des régions de France. Alors les oranges de Corse, les abricots de, enfin, je ne sais plus où, là, enfin, de Moissac, les reines Claude du Périgord, les fraises du Périgord, le miel de Provence, le confit de la Drôme, enfin, c'est extraordinaire. Oui, l'Alsace, il y a plein de choses, mais ça, c'est mes compos à moi. Mais il y a plein, on a une nation extraordinairement riche en saveurs, en beauté de architecture, en beauté de paysage, mais c'est extraordinaire, vous voyez. Et puis nous, on râle, on n'est pas reconnaissant, il y a un problème, quoi. Donc, ce qui veut dire que nous, on a commencé, nous, Église de France, par ne plus râler. Pouvons-nous nous engager à ne plus râler? Bon, on a déjà parlé ici. Et la reconnaissance, ça fait du bien au corps aussi, hein. La râlerie, je pense, ça détruit quelque part, ça détruit le physique, ça fait pas du bien au physique. Donc, ça conduit à l'absence de joie, la dépression. Donc, soyons reconnaissants et voilà. Et puis, alors, une dernière chose. Bon, il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais c'est quelques éléments que je voulais vous donner par rapport à la maison du Père. Oublie la maison de ton Père. Une chose, c'est le pessimisme, l'absence d'espérance et ne voir que le négatif. Vous savez, notre France... On dirait, bon, comment tu vois la France? Je suis sûre que spontanément, instinctivement, intuitivement, naturellement, on verrait tout ce qui va mal. Et c'est pour ça qu'Objectif France, ça fait franchement, franchement du bien, parce qu'on nous amène à voir les bonnes choses aussi. Dans tous les petits papiers que Guette nous envoie, là, tous les jours, on voit aussi des bonnes choses. On dit, ah ouais, c'est super quand même. Hein. Et puis, ça ranime l'espérance. Et là... Je voudrais insister sur, en tant que peuple de Dieu, s'il y a un peuple qui doit être ancré dans l'espérance, c'est bien nous. Or, il faut faire très attention parce qu'on est dans une mentalité de désespérance. Et je vais prendre l'image de l'encre. Hein, tout le monde connaît que l'encre, c'est une image, un symbole de l'espérance. C'est Hébreux 6. Et à quoi ça sert une encre pour un bateau? Voilà, le stabiliser. Ça veut dire qu'il y aura des forces qui vont essayer de le déstabiliser. Hein. Et ces forces, ça peut être des vents, ça peut être des vagues, ça peut être aussi des courants marins, qui vont essayer de le faire partir à la dérive. Voyez. Donc, vraiment, quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a vraiment dit, il faut vérifier nos ancres. Très important. Parce qu'il y a des puissants courants, de pensée, de, enfin, tout ce qu'on entend, vous savez, dans les médias, des puissants courants de désespérance, de crainte, d'angoisse qui pourraient nous entraîner à la dérive si nous n'avons pas notre ancre solidement accrochée au, au rocher, là, tout en, enfin, dans les profondeurs. Et si on pouvait prendre Hébreux 6, versets 15 à 20, parce que là, c'est très important. Être ancré dans l'espérance, être stable. Et surtout en ce moment, nous avons des tempêtes devant nous. Hein. Je rappelle, Pierre-Daniel Martin a dit qu'en l'automne 2012, ça allait fortement secouer. Il y aura des tempêtes, il y aura des grandes vagues. Donc, il est très important que nous, Église de Christ, on soit dans l'espérance, que ça soit en nous. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, alors les deux choses, c'est la promesse et le serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'ancre, elle va dans les profondeurs et elle va dans les profondeurs au-delà du voile, dans le lieu très saint. Hein. On parle au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Il y a pour nous ce lieu très saint, il est tout le temps ouvert. Et dans ce lieu très saint, il y a la paix surnaturelle, il y a toutes les ressources, il y a les provisions, il y a la joie, il y a l'amour. Et on doit être absolument relié à ce lieu très saint, surnaturel, qui est tout le temps ouvert. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous sentez, surtout ces derniers temps, il y a des courants qui voudraient nous attirer dans l'agitation, dans l'angoisse, dans la peur de l'avenir, dans le tumulte, vous voyez. Il y a des puissants courants marins, on va dire, puisque la mer, ça représente un peu les nations. Hein. Il y a ces puissants courants qui voudraient nous faire dévier, nous faire partir à la dérive. Mais nous, c'est crucial, je crois que le Seigneur est en train de dire, vérifiez vos ancres là. Et vous êtes ancrés comment? Ça parle aussi des racines, hein, c'est tout ça, c'est la même pensée. Vous avez un lieu très saint ouvert en permanence. Alors, allons nous ressourcer, vivons dans le lieu très saint. Je crois que ce n'est pas le lieu très saint, ce n'est pas juste un petit truc pour être à un moment le dimanche matin dans l'adoration. C'est tout le temps ouvert et on doit sans arrêt mais s'ancrer solidement. Parce que il n'y a pas que nous, il y a toute une nation aussi qui a besoin de ce qu'on a apporté venant du lieu saint, très saint. Et puis une autre image peut-être, bon, elle n'est pas dans la Bible celle-là, on reçoit beaucoup de boue sur les yeux. Si on prend l'image de la voiture... Hein, Notre service, notre ministère étant une voiture, donc on avance, et puis on avance sur un chemin très boueux, et puis pof, la boue, elle arrive. Et puis le pare-brise, si on ne fait rien, eh ben, le pare-brise, il est complètement plein de boue, et on ne voit plus. Alors la vision, ça parle de voir comme Dieu voit, et nos pare-brises sont complètement salis. Alors comment on fait quand on est une voiture correcte? Eh ben, on fait actionner les essuie-glaces. Mais pour que les essuie-glaces montent, marchent bien, il faut qu'il y ait du lave-glace. Hein, du lave-glace. Et le lave-glace, ça parle de l'eau. Et l'eau, ça nous parle de l'eau de la parole. Et c'est vraiment important de nous laver les yeux avec cette eau de la parole. Et pas qu'une fois. Hein, c'est parce que sans arrêt, la boue, elle vient. Et la boue, elle vient. Et, c'est, voilà. Et vraiment, on sait, hein, la loi, la parole, elle restaure, elle rafraîchit, elle fait un bien fou. On ne peut pas s'en passer, franchement, parce qu'il y a des tonnes de boue là, qui arrivent de tous les côtés, et on doit absolument garder notre vision claire, avoir le regard de Dieu sur nous, hein, nous voir comme ça, sur le pays, parce qu'il est franchement beau ce pays, et on doit avoir ce regard lavé par la parole, et être dans l'espérance. Et nous avons un héritage. Et alors là, on est appelé à nous voir. Vous savez, il y avait cette pensée que Dieu a fait un serment à Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous avons le même héritage qu'Abraham. Abraham, son héritage, c'était, le Seigneur a dit, je te bénirai et tu multiplieras. Et la plus grande bénédiction, c'est d'être soi-même une source de bénédiction et de se multiplier. Alors, simplement, et je crois que le Seigneur veut ajuster notre regard sur nous-mêmes et sur nous en tant qu'Église aussi. On était une Église appelée à bénir et on était une Église appelée à se multiplier. Comme Abraham, ça c'est la grande bénédiction. C'est l'espérance qui nous anime. Et ne soyons pas perturbés par les temps de secousse que nous allons vivre. Il y a dans l'histoire, dans notre histoire de France, il y a eu des temps de grandes secousses, même des changements de civilisation, carrément des temps de changement de civilisation. C'est là qu'un grand réseau apostolique s'est mis en place avec Martin de Tours et des grands, grands apôtres. C'est dans des temps de grandes secousses, c'est pas quand tout allait bien, tout était calme. Hein. Des temps de grandes secousses, des temps de changement de civilisation, il y a des réseaux apostoliques qui sont mis en place. Je parle de la fin de l'âge de la culture romaine et l'entrée dans l'âge féodal. Hein. C'est à cette époque-là qu'il y a eu que notre terre de France a été couverte d'églises, qu'il y a eu un grand, grand mouvement apostolique. Donc on est dans cette saison où des réseaux apostoliques sont en train de se construire et c'est précurseur d'un grand grand mouvement apostolique et ça c'est là quoi. Mais ça veut dire qu'on adopte le regard de Dieu sur nous-mêmes. On a la bénédiction d'Abraham, on est ancré dans cette espérance et on est nous-mêmes une source de bénédiction, on est relié au lieu très saint, on est relié à toutes les ressources du ciel et on est des portes, c'est un message de Richard Hayes, ça, on est des portes du ciel sur la terre. Il y a une nation qui a terriblement soif de la révélation des enfants de Dieu. Quand on priait là ces 15 jours, hein, il y avait une soif de la terre de France, elle a soif d'être bénie, elle a soif d'être consolée, elle a soif de recevoir des paroles de vie. Et on est allé jeudi avec le groupe d'intercession, on a parcouru les rues de Guebwiller et on a béni. Et je crois que chacun de nous, partout où on est appelé à bénir et être, vous voyez, ce canal... Il y a une abondance de grâce extraordinaire dans les lieux célestes qui veulent se déverser sur la France. Simplement, nous, être doux, être humble, et Dieu fera grâce aux doux et humbles, et à travers nous, des fleuves de grâce seront déversés sur le pays. Et ça se fera en deux. Il y a deux éléments. Il y a les intercesseurs, adorateurs, chantres, etc. Toute cette partie-là, hein, qui se développe vitesse grand V. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un grand rassemblement le 17 juin, deuxième tour des élections législatives, un grand rassemblement d'adoration dans la ville historique de France, capitale historique, à Lyon. Donc, il y a un mouvement puissant d'adoration qui est en train de se multiplier. Et parallèlement, il y a, comme disait Pépé, il y a les évangélistes qui sont libérés, et notamment nos jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions d'évangélisation prévues cet été, et notamment à Paris, mais aussi à Mulhouse. Hein, beaucoup, beaucoup. C'est le temps. C'est adoration, intercession d'un côté, mais évangélisation de l'autre, et nos jeunes en première ligne. Et c'est puissant. Et il y a aussi un événement que je voulais vous laisser aussi. En juillet 2012, ça fera 70 ans qu'a eu lieu la rafle du Veldiv. 70 ans, ça nous parle la fin de l'opprobre, et il y a un temps nouveau. Et vous savez qu'il y a des enfants juifs qui ont été raflés. Il y a vraiment une malédiction qui a pesé sur le pays à cause de ça. Alors attendons-nous à ce qu'une jeunesse de France soit raflée pour le royaume de Dieu. Après que les 70 ans sont écoulés en juillet 2012. Donc on est dans un temps incroyable. Alors enlevons toute la boue, laissons-nous laver par la parole, ancrons-nous dans l'espérance, et puis voyons la France comme elle est. Dieu est passionnément amoureux. Est-ce qu'on peut paraphraser Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé la France qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie abondante. Seigneur, mets en nous ta passion, parce que c'est la tienne, ta passion pour ton Église, ta passion pour cette nation que tu as créée. Tu dis dans Ésaïe 52, il a purifié, il a fait l'aspersion pour beaucoup de nations. Tu as fait l'aspersion, qu'on croit que tu peux sauver une nation, qu'on croit que tu peux mettre dans une nation entière la mentalité du royaume, la purifier de cette mentalité qui n'est pas la tienne, Seigneur. Qu'on ait un regard de grâce, de compassion et d'espérance sur cette nation, qu'on soit dans les lieux célestes, dans le lieu très saint, et que de là on voit de ta nation comme toi tu la vois, avec amour, avec espérance. Seigneur, et en enlevant régulièrement la boue qui voudrait salir notre vision. Alors merci Seigneur, on s'aligne sur toi, on reçoit ton amour, et merci Seigneur de la magnifique épouse que tu lèves pour danser la grâce sur cette nation et libérer les fleuves de grâce qui coulent d'en haut. Amen. Amen. Je sais pas si on...